Bonjour à tous, bienvenue à chacun. Quel bonheur de se voir. Et c'est vrai, quand je vois vos visages et tout ça, tous ces bonjours, tout cela, vraiment, il y a l'Esprit de Dieu qui atteste dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ce lien qui est entre nous, c'est extraordinaire. Vous savez, c'est un défi. Et je me rends compte qu'à travers ce confinement, tout ce qu'on a vécu, ça a renforcé l'Église comme jamais. Je vous assure, dans nos réunions maison, on n'a jamais parlé de WhatsApp ensemble, on ne s'est jamais autant appelé que pendant ce confinement, parce que nous avons besoin des uns des autres, parce que nous sommes liés les uns aux autres par des cordages d'amour. Et chaque mot, chaque message, chaque SMS, tous les matins, c'est plein, c'est plein. Ben, peut-être il faut le continuer même quand il n'y aura plus le confinement, hein, parce que c'est tellement beau de commencer les journées avec tous ces versets, de s'appeler, de se faire du bien. Donc merci Seigneur pour la famille de Dieu, merci pour cette joie qui est entre nous. Et on va commencer ce chant de ce culte par un chant, donc on a chanté tout à l'heure, car mon Dieu est fidèle, il nous abandonne jamais, nous sommes dans la joie. J'ai demandé à Quentin s'il veut tourner vous aurez les paroles comme ça. On va commencer par ce chant avant le message de Norbert. Merci Seigneur, Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Jésus, mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Amen, Jésus. Amen. Seigneur, merci pour cette joie qui vient d'en haut, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, nous avons décidé que nos maisons, que nos vies t'appartiennent, Seigneur. Merci parce que ton sang est sur le linteau de nos maisons. Ta protection est sur nous, Seigneur. Merci parce que tu ne nous abandonnes jamais. Et ce matin, nous voulons te chanter et te dire combien nous t'aimons. Merci pour les chants d'allégresse et de louange, Seigneur, et de nous retrouver les uns aux autres comme ça, de voir se bénir mutuellement et bénir ton saint nom. C'est toi qui as créé l'Église, Seigneur, et c'est toi qui nous as unis les uns aux autres par ces cordages d'amour. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Waouh!
Merci Antoine de nous avoir fait participer à ce chant et à cette joie-là qui en découle, hein. Je suis dans l'allégresse. Merci. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je pense que vous avez eu le temps de lire et de méditer un petit peu le texte que je vous propose de commenter ce matin. Donc, il s'agit dans l'évangile de Luc au chapitre 12 à partir du verset 13 et puis jusqu'à pratiquement le verset 34. Voilà. Alors, ce que je vous conseille, si vous n'avez pas votre Bible avec vous, eh bien, de prendre simplement une minute, de vous déplacer, d'aller prendre votre Bible et d'ouvrir le passage. Voilà. Hein. Donc, je vous laisse le temps d'aller chercher votre Bible. Comme ça, on a tous le même texte ensemble. Hein. Voilà. Vous l'avez devant vous, vous l'avez lu entre le moment où sur la chaîne YouTube et le démarrage en Zoom. Donc, je pense que vous avez à peu près le texte quand même dans votre cœur et dans vos pensées. Il s'agit d'une parabole. Stéphanie nous a raconté la parabole de la drachme perdue. Merci à Stéphane et Stéphanie. C'était vraiment super de réécouter cette parabole mise en histoire. Là, ce matin, je vous propose une autre parabole. Voilà. Jésus est en train de parler à la foule et puis un homme qui interpelle le Seigneur hein, et lui demande de résoudre un problème d'héritage familial. Alors, il ne faut pas être étonné de cette demande parce qu'à cette époque, c'était les rabbins qui faisaient office de juge et parce que les rabbins avaient une certaine connaissance de la loi, de la Torah, et cette Torah régissait tous les domaines de la vie sociale, de la vie juridique. Et donc, Jésus se présente comme un rabbin et on vient lui poser la question. Voilà, on a un litige entre nous, deux frères viennent lui poser la question, on a un litige entre nous, viens nous dire ce que dit la loi au sujet de notre héritage, comment il faut partager cet héritage. Voilà. Et donc, c'était une manière assez courante de s'adresser à un rabbin pour discuter et avoir leur avis sur des problèmes qui sont de l'ordre juridique. Voilà. Alors, Jésus refuse de s'impliquer et la raison est simple. Il a vu que dans le cœur des deux frères qui se disputaient, dans ces cœurs, il y avait comme une espèce de mauvaise graine. Et cette graine, c'était la soif, le désir de posséder toujours davantage. Alors, certaines traductions ont le mot « avarice », mais il faut comprendre ce terme plutôt comme une avidité d'en avoir toujours plus, pas simplement une avarice dans le sens qu'il faut garder pour soi-même. Hein. C'est une avarice dans le sens toujours plus, avoir toujours plus de possessions. Voilà. D'autres versions ont le mot d'ailleurs « convoitise ». Je pense que c'est les versions anglaises qui ont ce mot de « convoitise ». Alors, vous savez, il n'y a pas que l'argent ou les possessions qui peuvent être objet de troubles. On peut être aussi avide de pouvoir, avide de connaissances, avide de réputation, avide de célébrité, d'adulation. Alors, mais même si Jésus refuse d'être l'arbitre dans cette querelle entre les frères, il veut quand même mettre le doigt sur leurs mauvais désirs pour les en guérir. Il désire réorienter leur vie tout comme il désire réorienter nos propres vies dans notre quotidien en réorientant nos cœurs, nos priorités et nos affections. Je vais enseigner que la vraie vie ne se mesure pas ni ne dépend d'une abondance de biens. Cependant, dans la suite des versets après la parabole, Jésus ne nie pas que nous avons aussi certains besoins fondamentaux tels la nourriture et le vêtement. Jésus veut simplement affirmer que nous ne rendrons pas notre vie plus riche en augmentant nos possessions. Alors Jésus raconte une parabole pour faire réfléchir ses auditeurs. Alors vous savez la différence entre une petite histoire et une parabole? C'est la petite histoire, en fait, est faite pour nous endormir, hein, pour nous calmer, nous reposer, etc. On raconte une petite histoire à nos enfants ou à nos petits-enfants le soir, mais pour les endormir, pour leur mettre de la paix dans le cœur. Mais la parabole dans la bouche de Jésus n'est pas une petite histoire. Elle est dite pour éveiller les consciences, pour interroger ceux qui l'écoutent, pour que les personnes qui écoutent eh bien, se posent des bonnes questions. La parabole dans la bouche de Jésus est faite toujours pour ça, éveiller les consciences, réveiller les questions à l'intérieur de nos cœurs. Alors, quelle est cette parabole? Certaines Bibles ont appelé la parabole du riche fou ou du riche insensé. Alors, c'est vrai que cet homme riche a un gros problème. Il vient de devenir encore beaucoup plus riche. C'est un homme qui a un problème parce qu'il a trop de richesses. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous, nous aimerions avoir le même problème. Alors, je voudrais vous faire un petit clin d'œil. Si notre première réaction à l'écoute de cette parabole est celle-ci, que j'aimerais avoir ce genre de problème, est-ce que moi-même, je ne serais pas enclin à tomber dans ce piège de la convoitise, de l'avarice, de faire dépendre ma vie d'un toujours plus de possession ? Alors, que pensez-vous de la réaction de l'homme riche ? Il va construire de plus grands hangars pour y amasser ses richesses. Alors, une parenthèse, le verbe « amasser » ici, « je vais y amasser mes richesses », c'est le même racine que le mot « trésor » qu'on va retrouver à la suite. Hein. Faites-vous un trésor dans les lieux célestes. Hein. Alors, y a-t-il du mal à faire des économies ? Est-ce que c'est mauvais d'avoir un livret A ? Est-ce que ce serait critiquable pour Jésus ? Et non, certainement pas. La Bible n'a rien contre l'épargne, n'encourage pas non plus le gaspillage. Il y a des textes qui nous parlent qu'il nous faut être des bons intendants de ce que le Seigneur nous donne. Alors, où se situe le cœur du problème ? Regardez comment la parabole est construite. Je. Que vais-je faire ? Je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Voici ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers. J'en construirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme. En fait, la parabole raconte l'histoire d'un homme qui est tout à fait seul, seul avec lui-même, qui parle à son âme, qui réfléchit tout seul. Il est sa propre référence. Les projets qu'il forme ne concernent que lui. C'est un homme qui est le propre centre de son univers et qui son univers est extrêmement petit, en fait. Wow, il y a comme une tristesse dans ce monologue, une telle futilité. D'ailleurs, si je vous racontais la parabole en ne rapportant que les faits, en oubliant d'ailleurs ce monologue, je pense que je passerais à côté de la leçon de la parabole. Au début de ma propre méditation de ce texte, je pensais que Jésus se livrait à une critique des richesses. Mais je sentais que ce n'était pas ça, que je tournais autour du pot, jusqu'à enfin que tout cela s'éclaire. Jésus ne critique pas les richesses, le fait d'être dans l'abondance. Il met le doigt sur la folie de cet homme. Homme insensé, homme dépourvu de sens. Alors rappelez-vous, qu'est-ce que c'est qu'un homme insensé dans la Bible ? C'est celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Psaume 14, verset 1. L'insensé dit à son cœur, il n'y a pas de Dieu. Alors voilà un homme de la parabole qui agit comme si Dieu n'existait pas. En fait, cet homme se considère ultimement comme le propriétaire de ses biens et n'a de compte à rendre à personne de comment il va gérer et dépenser ses richesses. La folie de cet homme n'est pas de ce qu'il fait de ses biens, mais sa folie vient de son présupposé de vie, dans son orientation de vie, qu'il n'y a pas de Dieu. Il ne sait pas, en fait, que le don de la vie est un don de Dieu. Et un jour, sa vie lui est redemandée, il nous est dit dans la parabole. Il lui manque cette lumière qui éclaire tout. Ce phare dans la nuit dont nous avons chanté tout à l'heure avec Antoine et Sandy et Gérard, il y a une lumière qui éclaire notre nuit. Lui, il lui manquait cette lumière qui éclaire toute la nuit. Voilà. Alors, voilà un homme qui est insensé parce qu'il pense que Dieu n'a rien à voir avec sa vie. Mais pire, regardez la parabole encore plus près, la folie de la folie, c'est qu'il a créé son propre Dieu auquel il va demander la sécurité, la confiance, la plénitude de vie. Il en est devenu totalement dépendant. De sa richesse, il attend le repos, la jouissance, la plénitude de vie. Il a cru que sa vie dépendait de ses biens. Il a cru que le but de l'homme, c'était d'accroître ses possessions. Heureux celui qui a beaucoup, malheur à celui qui a peu. Et il a mis son énergie, sa force, son imagination, son enthousiasme à accroître son pécule. L'orientation du départ du riche insensé, le fait qu'il n'y a pas de Dieu, a conduit ses affections au mauvais endroit, c'est-à-dire à l'amour de l'argent. Alors maintenant, mes amis, que je vous ai décrit un peu la folie de cette riche insensée, comment serait la sagesse du croyant, de celui qui croit qu'il y a un Dieu au-dessus de lui? Comment être riche pour Dieu? Que veut dire amasser des trésors dans le ciel? La sagesse du croyant, notre sagesse, est que nous croyons au vrai Dieu, au Dieu vrai et unique qui s'est révélé aux hommes. Nous croyons que ce Dieu vrai et unique est le créateur de l'univers, qu'il est aussi Seigneur et souverain de tout ce qu'il a créé, qu'il agit de manière providentielle dans ce monde qu'il aime. Il nourrit les corbeaux, il habille les fleurs des champs, il s'occupe des petites choses de la terre. Il croit que ce Seigneur et souverain est aussi un Dieu qui fait grâce, qui agit de manière personnelle en faveur de ses enfants. Et nous l'avons chanté ce matin encore dans ces chants qui ont été, dans le choix des chants qui, je pense, étaient inspirés, hein. La création s'attend à toi et tu réponds à tous ses besoins. Alors, si le Seigneur répond à tous les besoins des petites choses de la terre, des corbeaux qui étaient pourtant un animal que la loi considérait comme impur, même si le Seigneur s'intéresse à toutes ces petites choses, à combien plus forte raison il s'occupera de nous, ses enfants, qui avons de la valeur à ses yeux? À combien plus forte raison il s'occupera de vous qui avez de la valeur à ses yeux? La sagesse du croyant consiste en la reconnaissance. Il considère que tout ce qu'il lui a vient du Seigneur. L'a-t-il gagné? Il reconnaît encore que c'est le Seigneur qui lui a donné la force de le faire. Qu'avons-nous que nous n'avons reçu? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez dire, c'est ma force qui l'a acquéri? C'est ma force qui me l'a fait gagner? Eh bien, même cette force que vous avez manifestée pour gagner telle ou telle chose, c'est le Seigneur qui vous l'a donnée. C'est lui qui est celui qui donne avec largesse force et vie à chacun d'entre nous. Alors, béni soit le nom du Seigneur. Le croyant, dans sa sagesse, a-t-il beaucoup? Alors, il remercie le Seigneur de cette abondance et il recherche devant le Père comment ce qu'il a peut contribuer à la gloire de Dieu et à la bénédiction de ceux qui l'entourent. Au lieu de dire « Mon âme, qu'est-ce que je vais faire de toute cette richesse ?» il va dire « Mon âme, bénis le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Que puis-je faire, Seigneur, avec ce que tu me donnes pour bénir ceux qui m'entourent et ceux que tu me fais côtoyer tous les jours ?» Le croyant dans sa sagesse a-t-il peu? Alors sa sagesse va consister alors à faire confiance en son Sauveur et Seigneur. Il attend avec patience le secours de son Père dans les cieux, qui sait tout de ses besoins fondamentaux. Il apprend à abandonner la peur, il apprend à abandonner la crainte, car il se sait en sécurité entre les mains d'un Père bien aimant qui trouve son plaisir à donner. Oui, la frayeur devrait abandonner le croyant qui est sage. La peur et les inquiétudes devaient être abandonnées dans nos vies. Se sent-il petit, le croyant qui est sage? Sa sagesse lui apprend que oui, effectivement, il est petit. Nous sommes petits, mais notre Père est grand et cela est suffisant. Nous entendons la voix du bon berger qui nous répète « N'aie pas peur, petit troupeau. N'aie pas peur, petit troupeau. Ton Père a trouvé bon de te donner le royaume. » Alors la sagesse du croyant réoriente son cœur et ses affections vers les choses qui demeurent éternellement. Il espère le royaume. Il aspire au royaume et au règne de Dieu. Il est riche pour Dieu. Il amasse des trésors dans les cieux. Car il aime ce qui vient de Dieu, il aime ce qui vient de Jésus. Il apprend, nous apprenons à nous connaître comme image de Dieu, image brisée par la chute, certes, mais image restaurée et qui se transforme en la même image, celle de Jésus par le Seigneur l'Esprit. Il apprend de son Père comment il doit agir. Et rappelez-vous ce qui nous est dit de Jésus-Christ dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'apôtre Paul qui parle, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Alors le but de ce message, mes amis, mes frères et sœurs, ce n'est pas que nous donnions davantage à l'offrande, ce n'est pas ça le but de ce message. Le but de ce message est que nous suivions Jésus-Christ dans le quotidien de notre vie. L'Évangile, c'est un art de vivre, c'est une sagesse de vie que nous apprenons à l'école de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit réoriente nos affections, réoriente nos aspirations, réoriente nos philosophies de vie. Et suivre Jésus-Christ, c'est se mettre à son école, apprendre de lui comment agir à son exemple. Et être à son école, c'est mettre sur nos épaules un joug doux et léger. C'est un joug doux et léger que de suivre Jésus-Christ dans tout notre quotidien. L'Évangile n'est pas simplement pour l'avenir, quand on se retrouvera devant le Seigneur, l'Évangile est pour notre quotidien. Et nous devons apprendre les uns et les autres à le suivre de manière pratique, jusqu'au plus petit détail, dans notre quotidien, avec ce que nous avons, avec nos problématiques de tous les jours. Le Seigneur nous donne-t-il beaucoup ? Qu'est-ce que je dois faire de ce beaucoup ? C'est lui qui me le donne. Le Seigneur me donne peu ? Qu'est-ce que je dois faire avec ce peu ? Comment je dois agir avec ce peu ? Voilà, c'est un évangile pratique que Jésus enseigne. Le Seigneur, nous vivons les uns et les autres des situations tout à fait différentes par rapport à ce qu'on gagne ou pas. Le Seigneur veut nous apprendre à gérer notre temps, notre argent, notre affection, nos désirs, nos projets. Il désire gérer tout cela. C'est lui qui le fait dans notre quotidien, à la suivance de Jésus-Christ. Je voudrais prier pour terminer et vraiment que ensemble, si j'étais au centre Martin Luther King, si nous étions, j'aurais fait un appel. J'aurais dit, qui veut suivre Jésus-Christ dans son quotidien ? Qui veut mettre sa confiance en Jésus-Christ pour son quotidien ? Qui veut mettre sa sécurité en Jésus-Christ pour son quotidien ? Je vous aurais fait cet appel. Je le fais maintenant et puis je peux pas vous demander de vous avancer. Je peux pas vous demander de lever les mains. Mais ce que je peux vous demander, c'est de prier vraiment, de dire Seigneur, comme on l'a chanté encore, comme Antoine nous l'a fait chanter, tout est pour toi, Seigneur. Tout est pour toi. Il n'y a pas un domaine de ma vie qui serait exempt. Nous dépendons du Seigneur dans notre quotidien. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui est riche. Nous sommes riches de ta parole. Nous sommes riches de toi et nous voulons être riches pour toi. Seigneur, notre sécurité, notre dépendance, Seigneur, c'est pour toi. C'est en toi que nous la trouvons. Seigneur, notre plénitude de vie, nous la cherchons pas, Seigneur, ailleurs qu'en toi. C'est toi qui nous donnes la plénitude de vie. Nous voulons être remplis de toi dans notre quotidien, Seigneur Jésus. Et Seigneur, dans ces périodes de fête de Noël qui commencent, nous voulons nous rappeler, toi qui étais riche, tu t'es fait pauvre pour nous, Seigneur, pour nous enrichir. Et Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, t'offrir encore nos vies dans cette période de Noël. T'offrir nos vies à nouveau, Père. T'offrir nouveau, nous voulons te suivre, nous voulons pas être des insensés, nous voulons pas être dépourvus de sens, nous voulons être sages selon toi, Seigneur Jésus. Nous voulons amasser des trésors dans le ciel, nous voulons te confier nos vies, Seigneur. Vivre comme toi tu l'entends, vivre, Seigneur, comme toi tu le désires. Merci pour ton cœur, Seigneur Jésus, que tu mets dans nos vies. Seigneur, guide-nous en tant qu'assemblée, guide-nous en tant qu'individu, Seigneur, à te mettre toujours en premier, Seigneur, à ne pas vivre comme des insensés, Seigneur. Seigneur, à toi vient notre sagesse, de toi vient notre sagesse. Seigneur, bénis-nous, garde-nous, chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, espoir soit mon chant, Jésus. Sois le feu de mon cœur, sois le vent de mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Embrase-moi de ton feu, de ton souffle, conduis-moi, sois ma raison de vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma source, ma lumière, Jésus. Embrase-moi de ton feu, de ton souffle, conduis-moi, sois ma raison de vie, Jésus, Jésus. Amen. Tu as pris à la croix mon péché et ma honte, et par cette alliance tu me restaures. Donc je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Affermis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Tire-moi près de toi et sanctifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Amen. Je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur.